Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va?
Ça va bien Hugo, et toi?
Ça va bien aussi, on se parle un vendredi avant midi, on aime ça, changer les choses comme ça, là, un peu, rendre ça un peu dynamique.
Oui, non, c'est ça, il me semble dernièrement on a eu des enregistrements souvent de soir, des fois quand même assez tard en soirée, là on est le matin, fait que c'est un autre feeling.
Voilà, ben c'est une question évidemment d'heure de disponibilité. Tout ça relié évidemment au monde du travail. Ça tombe bien, cette semaine, on va parler d'un film qui se passe dans un bureau. Mais avant qu'on se lance directement là-dedans, ben évidemment, bienvenue donc à ceux qui nous écoutent cet épisode bonus donc de Rembobinage, disponible en primeur donc pour les abonnés du Patreon. Patreon, va y avoir des gros changements, bon, ça s'en vient bientôt, je vais vous faire une annonce officielle très très bientôt là, sur le site de Pieuvre, sur évidemment la page du podcast Rembobinage, on va vous expliquer tout ça, ça coûtera pas plus cher. Ça reste les mêmes tarifs, mais ça va être plus intéressant pour vous, donc pour vous les auditeurs. Et donc, toutes sortes de belles surprises qui s'en viennent. Kevin, j'ai une question. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais $1 million?
Bonne question. Honnêtement, je pense que ma vie resterait assez semblable, mais ça enlèverait le stress, mettons, de absolument devoir trouver des contrats et de devoir payer les factures, tout ça. Je pense que je ferais rien d'extravagant, mais je serais moins stressé, mettons.
Ben écoute, je pense aussi que je serais beaucoup moins stressé. Je paierais mon hypothèque déjà.
Ouais.
Puis avec les 2/3 de l'argent qui me reste, je sais pas, je prendrais peut-être des bonnes vacances et ensuite on verra pour la suite. Non, je te parle de ça parce que pour l'épisode, donc ce nouvel épisode bonus, on a écouté Office Space.
Oui, absolument. Je crois le premier film de Mike Judge, du moins son premier film avec des acteurs. Je pense qu'il avait fait un film de Beavis and Butthead auparavant.
Oui, effectivement. Puis bon, il avait fait aussi des courts-métrages, je crois. Enfin, courts-métrages qui ont éventuellement mené, si je ne me trompe pas, à Office Space. Donc, des courts-métrages qui mettent en vedette Milton, qui est un employé de la compagnie Initech, qui est d'ailleurs dans le film, mais qui est un personnage secondaire plutôt qu'un personnage principal. Office Space, un drôle de bibitte. C'est une comédie noire sur le monde du travail aux États-Unis, sur l'espèce de corporatisme un peu sauvage. Mais en même temps, puis évidemment, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais en même temps, quand j'ai réécouté le film, il y avait une espèce de nostalgie. Je sais pas, je ressentais comme la nostalgie pour ce genre de travail-là dans un cubicule. Je sais pas pourquoi. Il y avait comme un petit côté, c'est rétro. Peut-être que c'est une époque avant qu'on comprenne vraiment que c'était la crise climatique ou avant l'11 septembre, évidemment, avant l'11 septembre 2001, sorti en 99, donc ce film-là. Il y a un petit côté rétro. Toi, est-ce que tu as ressenti un peu cette nostalgie?
Oui, je comprends ce que tu veux dire, puis c'est drôle, tu dis 1999, c'était aussi l'année, il y avait comme beaucoup de films un peu, comme tu dis, que sur le sujet, que c'était comme un peu une époque, comme on n'était pas dans l'histoire, c'était comme il se passait rien, ou c'est ça qu'on avait l'impression. Tu sais, je sais que dans Fight Club, c'est beaucoup de ça que ça parle, c'est un autre film de 1999, T'sais, le personnage de Tyler Durden, il dit « Ah, on est une génération que, dans le fond, on n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu rien. » Puis, tu sais, ça, c'était sans savoir que 2 ans plus tard, ça serait le 11 septembre, qu'il y aurait plein de guerres, puis comme tu dis, la crise climatique, puis tout ce qu'on sait maintenant que tout va mal. mais on dirait qu'à la fin du siècle précédent, on avait comme l'impression que c'était comme juste tranquille, peut-être trop tranquille. Les gens étaient comme, OK, on est dans notre petit confort, c'est plate, on travaille dans un cubicule, puis il nous arrivera jamais rien.
Oui, absolument. Puis bon, tout est pastel un peu, tout est un peu gris, c'est pas la grande excitation. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu aimerais nous résumer l'intrigue de Office Space?
Oui, donc l'histoire, c'est on a quelques personnages principaux qui travaillent tous pour une compagnie d'informatique ou c'est pas vraiment clair, c'est pas vraiment important. Le personnage, celui qu'on suit le plus, c'est Peter, qui est joué par Ron Livingston, qui lui, il est pas passionné par son travail. Il se rend chaque jour dans le trafic, puis il passe sa journée devant son ordinateur, dans son cubicule. Son boss lui tape sur les nerfs. Il entend sa voisine de bureau qui parle au téléphone toute la journée. Puis tu sais, c'est vraiment la petite routine, vraiment aliénante. Et à un moment donné, avec sa copine, ils se rendent chez quelqu'un qui l'hypnotise. Puis celui qui l'hypnotise pour comme qu'il cesse de stresser, tout ça, se retrouve à mourir pendant la séance. Puis il claque jamais des doigts. Donc il sort jamais de son état de plus se soucier de rien. Donc, à partir de ce moment-là, il arrive au travail, puis il met pas nécessairement une chemise, une cravate, il est bête avec son boss, souvent il arrive en retard ou il se présente pas du tout au bureau, puis c'est un peu comme, tu l'as dit, c'est une comédie, puis c'est comme un peu de « ah ah ah, ça serait-tu drôle de pas avoir peur de perdre son emploi, puis de faire un peu n'importe quoi, puis de se rebeller contre le système ». Je pense que c'est ça, au départ. Il y a quelques autres trucs qui se passent dans le film, mais à la base, c'est ça la prémisse, là.
Oui, absolument. C'est une espèce de... Ben évidemment, donc c'est peu subtilement une charge, comme on mentionnait, une charge contre l'espèce de culture de l'entreprise, avec les, comme on disait, les murs gris, avec les meetings. Il y a des moments dans le film où le patron qui a l'air d'être pas nécessairement détesté, mais... Ben oui, un peu, mais surtout... Tout a l'air d'être, tu sais, sur une échelle de, mettons, à moins 100 à 100, tout a l'air d'être à zéro. Donc, le boss fait une annonce généralisée, il n'y a personne qui a l'air vraiment enthousiaste. Ils fêtent à un moment donné ce patron-là. Et c'est à peu près la version la plus triste de joyeux anniversaire ou happy birthday to you que j'ai pu entendre, je pense, au cours des dernières années. Il y a vraiment cette idée-là de il n'y a rien qui change. Et c'est toujours la même chose. Et c'est toujours, tu viens au bureau encore une fois avec ton auto, tu as ton stationnement désigné. Tu t'ennuies, tu t'en vas prendre un café, l'espèce de chaîne de restaurant à côté qui, ça, c'est pas très bon nécessairement, c'est pas très mauvais. C'est pas nécessairement médiocre dans un sens que c'est pas bon en général. Je veux dire, cet univers-là, mais... on sait pas trop où ça se passe, je pense en Californie, parce qu'à un moment donné, il y a une mention d'une ville avec un nom un peu hispanophone, ou c'est peut-être en tout cas un état du sud des États-Unis, mais tout ressemble à tout. Je sais, les bureaux ressemblent à n'importe quel bureau de banlieue. Le restaurant aussi, ça j'ai déjà mentionné. La maison où habite notre personnage principal ressemble à n'importe quel appart construit par Samco ou une autre compagnie du genre qui fait des détours à répétition. C'est vraiment un monde où c'est à l'identique là, jusqu'à la mort.
Oui, absolument. C'est vraiment... c'est drôle un peu parce que ça se transmet un peu dans le film. Le film est très beige. C'est un film que parfois il y a des trucs un peu plus exubérants qui se passent, mais surtout dans la première partie du film, c'est comme intentionnellement un peu plate là, dans le sens qu'on est comme ah ok, il se passe rien, puis c'est comme quelle vie plate. Puis
oui, et puis même le personnage de Peter a deux amis, Michael Bolton, qui est pas le chanteur, mais qui est un jeune homme, et Samir, dont le nom, c'est ironique, que je vais pas prononcer son nom de famille, parce que ça aussi, c'est un truc comme désagréable, mais pas horrible, c'est-à-dire personne n'est capable de prononcer son nom de famille, et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est Nahani Deja ou quelque chose comme ça. ben moi, je me trompe probablement, mais encore une fois, ça s'ajoute au fait que les gens s'intéressent pas à leurs collègues vraiment, ou plus, ils font pas l'effort. C'est un peu comme, bon, ma conjointe vient d'Argentine, et fait des fois, ça arrive pas souvent, Dieu merci, mais ça fait des fois dire, ah, ton prénom, c'est pas telle autre chose. Puis je dis, non, mon prénom, c'est mon prénom. Je pense que tu le sais, c'est quoi ton prénom, c'est pas, donc, c'est un genre de je vais pas dire racisme systémique, là, mais, encore une fois, une absence d'effort pour s'ouvrir à l'autre puis aller t'sais, comprendre l'autre personne, ne serait-ce que...
Je pense souvent les gens appellent ça une micro-agression. Là.
Oui, effectivement. Mais tout le film est basé là-dessus, finalement. T'sais, bon, t'as le voisin de Peter dans l'appart à côté qui sait très bien que le mur mitoyen, c'est du carton. Tout le monde entend ce qui se passe chez l'autre et lui, il fait pas attention, crie à travers le mur. Vraiment, toutes sortes de choses comme ça, tu te dis, ça... Puis en même temps, encore une fois, il y a rien d'assez pire, en tout cas jusqu'à temps que Peter décide d'arrêter de s'en faire, mais il y a rien d'assez pire pour dire, à un moment donné, je lâche tout, je m'en vais faire autre chose, je quitte cette vie-là. C'est juste, on endure, puis à un moment donné, on meurt.
Ouais, puis... Je reviens à ton idée de la nostalgie de ça. Mm-hmm. C'est que ce qui est drôle, c'est que maintenant, avec tous les malheurs qu'on connaît, tous les trucs difficiles, puis souvent il n'y a pas de sécurité d'emploi, puis etc., que dans le fond, on voit ça, puis eux, ça a tellement l'air d'être la pire affaire au monde, mais pas la pire affaire au monde, mais quelque chose de vraiment plate, puis qui crée un malaise existentiel, mais que dans le fond, c'est pas si pire, tu dis, ben, OK, t'es dans un bureau, t'as un salaire, t'as ta petite job, t'as des amis, tu sais, puis c'est drôle que, justement, en 99, à cette époque-là, c'était comme, on dirait que il y avait ce gros, dans les films, ce gros fantasme de se sortir de ça. Tu sais, j'ai mentionné Fight Club, mais il y a aussi American Beauty aussi, c'était ça. Mm-hmm. Le travail de cubicule qui rend fou le personnage, puis qu'éventuellement, il décide de démissionner, de tout lâcher, de rejeter les conventions sociales. Aussi un film que je pense qu'on aime les deux, The Matrix, oui, c'est oui. Un peu ça aussi. Quand il y a les scènes au début de Neo qui est dans son bureau, dans son cubicule, puis tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est la pire vie au monde, qui est vraiment, qui réussit pas, tu sais, qui a vraiment éventuellement besoin de s'évader, non seulement de son bureau, mais de la réalité, là.
Oui, mais en même temps, je veux dire, on va pas faire l'apologie du cubicule nécessairement, parce que pour l'avoir vécu à plusieurs endroits, ce cubicule, c'est déprimant. D'être toujours dans son petit espace, puis de toujours faire la même affaire, c'est plate. C'est pour ça que je trouve ça vraiment particulier, ce sentiment-là de... Peut-être parce que les personnages ont leur fin de semaine, je sais pas, ils vont à des barbecues, ils voient des gens, le soir, ils sont entre amis. Tu le sais, moi, j'ai un horaire qui est assez changeant, puis ça fait partie de la job de journaliste, c'est sûr. Mais je regardais ça, puis je me disais, des fois, j'enviais un peu ces gens-là, puis après ça, je me rappelais, non, c'est une corporation qui n'a pas d'âme, ce gars-là fait un job qui le déprime, puis en fait, je pense qu'il mentionne à un moment donné, post-hypnose, là, qu'il se dit, je fais à peu près 15 minutes de vrai job par semaine. Bon, c'est évidemment assez excessif, là, dans le sens qu'ils vont pousser ça à l'extrême pour la parodie, mais le présentéisme, tu sais, dans les compagnies comme ça, c'est certain qu'il y en a aussi. Des gens qui sont là, qui prennent un café, qui jasent, qui font leurs petites affaires, qui répondent à des chaînes de lettres. Ça n'a pas changé depuis 30 ans. Là.
Non, c'est ça. Moi, je suis d'accord que, tu sais, moi, ça fait une dizaine d'années que je fais du travail autonome, que je travaille de chez moi, à mon compte. Donc, je fais mon propre horaire. Puis, tu sais, quand je travaille, mais tu sais, si je prends une pause, je prends une pause. Mais je me souviens que quand tu travailles justement dans un bureau, souvent, tu travailles pas nécessairement 8 heures par jour, tu sais, des fois tu jases, tu vas chercher un café ou si c'est pas littéralement que tu sors complètement dans la rue, tu t'en vas je sais pas trop faire quoi, tu sais, il y a un côté un peu t'es payé pour être là présent pendant X nombre d'heures, mais dans le fond, t'es pas nécessairement tout le temps devant ton ordi à travailler intensément non-stop là.
Si on revient au film, parce qu'on pourrait parler de la vie de bureau pendant un certain temps, est-ce que tu trouves, parce que, bon, clairement, j'imagine que tu l'avais déjà vu là, avant qu'on le revoie pour le podcast.
Oui, oui, je suis allé le voir au cinéma en 99 dans le temps.
OK, bon, ben voilà. est-ce que c'est aussi drôle que ça l'a été, ou est-ce qu'encore une fois, on regarde ce film-là et on dit « Ah, c'était drôle dans le temps, donc ça reste drôle aujourd'hui ».
Ben moi, je te dirais que même à l'époque, c'était pas un de mes films préférés. J'avais aimé ça correctement, mais sans plus. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est que depuis 24 ans, ouais. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de répliques cultes. Il y a des gifs, des mémés, des trucs qu'on voit sur Internet encore aujourd'hui qui reviennent. T'sais, c'est vraiment un film qui a marqué grâce à certains personnages, certaines répliques, etc. Puis là, je l'ai revu hier, puis j'étais comme, OK, c'est encore là, je trouvais que c'est un film correct, puis il y a des trucs marquants dans le film, mais j'ai pas particulièrement ri pendant le film, tu sais, j'étais comme, je trouvais ça plus intéressant que drôle, mettons.
Je suis assez d'accord avec toi. C'est tout à fait vrai qu'il y a des sections, des séquences, des scènes, tout ça, des répliques qui sont, avec le temps, sont devenues cultes. Tout le bout avec l'espèce d'imprimante qui marche jamais. Je trouvais ça encore très drôle, mais ça reste, c'est drôle parce que on peut avoir vécu ça avec un appareil électronique, de dire ça fonctionne pas. Puis là, eux autres, encore une fois, ils mettent ça à l'extrême, le fameux PC load letter, que c'est ça, ce code d'erreur-là. tu sais, récemment, je fais une parenthèse, mais tu sais, récemment, je me suis retrouvé j'ai acheté un nouvel ordinateur, bon, et j'ai dû installer Windows et il y a quelque chose avec les pièces à l'intérieur de l'ordinateur qui sont tellement neuves que dans Windows, il n'y a pas le pilote pour la carte réseau pour aller sur Internet. Puis d'habitude, je me dis, bon, ben c'est rendu que quand tu installes Windows, il dit, OK, voilà ta carte réseau, tu peux aller sur Internet, faire tes mises à jour, finir ta configuration, tout ça. Sauf que dans Windows 11, qui est la plus récente version de Windows, ça te prend Internet pour terminer l'installation. Il veut déjà dans ton processus, pour j'imagine aussi combattre le piratage, mais il veut déjà dans son processus aller sur le web. Et là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Essayer de trouver. Bref, je me sentais un peu, quand j'ai revu le bout avec l'imprimante, je me dis, ah, c'est exactement ça. Je suis pas allé jusqu'au point de prendre un bâton de baseball puis de détruire l'ordinateur. Ça coûtait assez cher de même. Mais ça, je trouvais, c'est ce genre de choses comme ça qui, tu sais, bon, ça reste dans les esprits. Le fameux boss, le Bill Lumberg, qui est détestable à souhait, qui son ton de voix, son espèce de truc, un accent un peu traînant, puis il dit, tu sais, en passant, va falloir que tu rentres en fin de semaine, puis c'est le genre de façon de poser une question, de dire, ah, salut, comme si je te disais, salut Kevin, comment ça va, puis au lieu de te laisser le temps de répondre, dis, en passant, ton rapport, il n'y a pas la bonne page couverture, puis va falloir que tu t'arranges pour faire ça, puis je vais te rappeler la directive 4-5 fois avant de... Là, tu dis, c'est détestable. Fait que c'est vraiment ces séquences-là, ces moments-là qui restent. Parce que, encore une fois, le film comme tel, tu sais, il y a des bouts qui n'étaient pas vraiment nécessaires, je pense. Il y a des scènes qui sont... Tu sais, le film dure à peine 1h30, notre fameux 90 minutes mm-hmm. réglementaire. Mais j'en ai enlevé 10, peut-être 15... ça reste, il y a des moments donnés, peut-être que c'est le fait d'avoir 24 ans d'écart entre la date de sortie puis maintenant, mais
oui,
puis des moments, j'étais comme, bon, on pourrait passer à la suite, là.
Oui, tu dis que même si c'est 90 minutes, ça paraît un peu long, c'est que aussi, depuis Office Space, il y a eu plusieurs séries télé, dont plusieurs versions de The Office, la fameuse série que tout le monde adore à peu près. Moi, j'aime beaucoup la version américaine, j'aime encore plus, je crois, la version britannique. Puis c'est fou à quel point que moi, je trouve que même si c'est venu après, je trouve que les différentes versions de la série The Office, c'est meilleur, c'est plus drôle, j'aime mieux les personnages. Puis c'est comme, tu sais, c'est des épisodes de genre 24 minutes. Puis en 24 minutes, on dirait, il aurait pu faire Office Space au complet en 24 minutes. Puis ça aurait été plus punché, là.
Oui, oui, absolument. Ben bon, ça reste... J'ai quand même une place spéciale dans mon cœur pour Office Space. Tu sais, encore une fois, je pense que quand on se parlait pour préparer l'enregistrement, tu sais, je t'ai demandé qu'est-ce que tu dirais que tu fais ici comme travail. Ça vient directement du film.
Mm-hmm.
On s'envoyait des gifs, tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de marquant, ne serait-ce qu'en tout cas pour des gens de notre âge peut-être. Puis c'est le fait aussi que la distribution, il y a un paquet de gens, peut-être moins à l'époque, mais aujourd'hui, tu regardes la distribution puis tu te dis, mon Dieu, il y a du monde là-dedans, des gens connus. Tu sais, ça marchait, c'était une grande liste de gens connus déjà à l'époque un peu, là.
Oui, ben connu, mais pas, à part Jennifer Aniston, qui joue oui. une serveuse qui fréquente le personnage principal, c'est pas tant des superstars, mais c'est surtout dans le monde de la comédie, il y a beaucoup de gens qu'on revoit souvent, qu'on sait pas nécessairement leur nom, mais des visages familiers, comme celui qui joue Milton, Steven Root.
Oui.
Moi, j'ai écouté la série télé Barry, tu sais, il y a un rôle important là-dedans. Puis c'est ça, les différents acteurs, c'est souvent des gens que tu vois dans des petits rôles, dans des comédies, souvent.
Oui, oui, absolument. Puis donc, puis bon, Ron Livingston, on l'a moins vu dans des comédies, mais il était dans Band of Brothers, par exemple. Donc, c'est venu après, bien sûr, mais bref, il y a vraiment quelque chose a posteriori, quand tu écoutes le film, tu dis « Ah, tel personnage, tel acteur. » Puis ça fait en sorte que finalement, tu dis « Ok, les gens, l'interprétation est quand même... » est quand même assez bonne.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a quand même des trucs intéressants ou quelque chose qui est... Je sais pas si on pourrait autant le faire encore aujourd'hui. C'est à quel point il y a beaucoup de gags que c'est « Ah ouais, tu vas-tu revenir puis tirer tout le monde? » Puis « Ah, je vais mettre le feu? » Tout ça. Il y a vraiment
ouais, ouais.
beaucoup de gags sur « on va faire une tuerie ou on va mettre le feu au bureau. » Tu sais, c'est de l'humour noir quand même, là.
Ouais, ouais, puis ça marche moins bien aujourd'hui, comme tu disais. Ben en plus, je pense que 99, c'était l'année de Columbine, ça se peut-tu?
Ouais, ouais, absolument.
Fait que je sais pas à quel point c'était ouais. un bon timing déjà. Mais non, effectivement, aujourd'hui, tu dis, bon, tu t'annoncerais au bureau, ah, je vais rentrer dans la place avec une mitraillette, tu te ferais convoquer, là. Il y a quelque chose, tu sais, les gens te prendraient peut-être au sérieux, là. À l'époque, c'était peut-être plus drôle, là. Mais c'était aussi, je pense, l'époque... Dans le contexte du film, je pense que le travail de Peter, c'est de mettre à jour des systèmes informatiques bancaires en vue du bug de l'an 2000. Et ça aussi, c'est une espèce d'idée de... Je pense que ça vient compléter l'idée que finalement, il n'y a rien qui est important parce que le monde va finir en l'an 2000. Ça va être la catastrophe, même si on fait tous les changements possibles. Tu avais une espèce d'idée de fin de... Ben justement, fin de siècle. Même si officiellement, le siècle finissait en 2001, mais ça, c'est une autre affaire. Mais je pense qu'effectivement, ça vient s'ajouter à cette idée-là de peu importe ce que je fais un petit rouage dans la machine, ça change pas grand-chose. Je peux travailler ici, je peux travailler ailleurs. D'ailleurs, toutes les compagnies technologiques dans ce film-là, ils ont tous des noms qui ne savent rien dire. Initech, Initroad. Tu sais, c'est comme si on disait tu travailles à la compagnie logicielle incorporée. Tu dis OK, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des choses.
Ouais, non, c'est ça. C'était comme, dans le fond, c'était les premières grosses années de l'Internet, puis tout ça, que c'était vraiment de plus en plus que tout le monde, ou presque, travaillait avec un ordinateur. Mais maintenant, c'est autre chose. Tu sais, c'est vraiment, c'est partout dans nos vies. Puis même depuis un petit bout de temps, il y a l'intelligence artificielle. Il y a plein de trucs qui se développent super rapidement. Mais c'est drôle de voir dans un film de 99 que c'est comme les vieux ordinateurs, puis
ouais.
ça a l'air de presque pratiquement une machine à écrire, puis ça a pas l'air vraiment performant, là.
Ouais, ouais, ben il y a une scène assez proche du début du film où Peter veut s'en aller plus tôt le vendredi après-midi, et là, il veut fermer son ordinateur. Et là, c'est un gag extrêmement 1999, parce que si je veux éteindre mon ordinateur aujourd'hui, là, c'est celui que j'utilise pendant qu'on se parle, dépendamment de ce qui est ouvert, ça va peut-être prendre 20 secondes.
Mm-hmm.
Dans le film, ça prend, je pense, à peu près 5 à 10 minutes, le temps qu'il ferme tout, puis là, ça prend du temps, puis là, ça traîne, nanana, puis là, évidemment, t'as le gag de la barre de progression qui avance, pour finalement arriver au bout puis recommencer au début, parce qu'il faut qu'elle fasse le chemin plusieurs fois. Puis bon, on rigole un peu, mais clairement, quelqu'un qui est né après ce film-là, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, ou même plus jeune que ça encore, je sais pas à quel point il pourrait trouver ça drôle d'écouter Office Space. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, non, c'est ça. Je pense pas que c'est un film que... Tu sais, nous, on a un peu la nostalgie de cette époque-là, mais quelqu'un de plus jeune, ça a peut-être juste l'air plate, là.
Écoute, ces gens-là n'ont pas connu le fameux message « Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur en toute sécurité. »
Ouais.
Ça date vraiment d'une autre époque. Mais où fallait, où mettons, il fallait vraiment retirer un périphérique USB, une clé USB dans Windows plutôt que juste l'enlever du port USB. Il fallait faire toute une procédure. Bref, c'est encore une fois, c'est une autre époque. Est-ce que tu recommanderais quand même Office Space aujourd'hui?
Bah, je sais pas, honnêtement, tu sais, par curiosité peut-être, définitivement, si c'est un film que vous connaissez déjà, que vous voulez revoir, c'est quand même comique à revoir, mais j'ai pas passé un moment extraordinaire, j'ai trouvé ça correct, puis, tu sais, il y a quand même, je pense, un truc que j'ai trouvé le fun, que je me souvenais, c'est la façon que, autant que les personnages sont tellement des nerds, puis tout ça, mais que il aime écouter du gangster rap, fait que oui. Souvent dans le film il y a du gros hip-hop vraiment agressif tout ça, fait que le contraste avec les petits nerds qui travaillent dans des bureaux sur des ordinateurs, je trouve ça quand même amusant là.
Oui, oui, ben ça m'a fait penser un peu à la chanson, la parodie White and Nerdy de
Weird Al Yankovic. Oui, c'est ça.
Où on dit ah, mes capes de roue sont très stationnaires, puis il y a pas de ma voiture, c'est ça, une bonne suspension, puis elle est très, tu sais, elle conduit bien, c'est une Volvo, genre, je sais pas trop. Non, j'avoue que tu sais déjà comme je le disais pour un public plus jeune. Les gags viennent, seront pas nécessaires, à moins de connaître, d'avoir connu cette époque-là ou d'en avoir entendu parler, tu risques de traiter un peu ce film-là comme étant une espèce de capsule temporelle d'une époque qui est presque... C'est sûr qu'il y a encore du travail de bureau aujourd'hui, là, ça c'est évident, mais de ce genre-là, c'est vraiment... c'est ça, c'est une autre façon de voir les choses aujourd'hui, c'est une autre façon de... Évidemment, il n'y a pas de téléphone cellulaire. En tout cas, j'en ai pas vu dans le film, là, pas dans mon souvenir. Puis d'ailleurs, je pensais à ça. Je réfléchissais au film après l'avoir revu, puis je me rends compte qu'il n'y a pas de bonne personne dans le film, à part peut-être le personnage de Jennifer Aniston. Ou peut-être le type l'ingénieur qui se fait frapper par une voiture, là, le personnage dans le GIF que tu m'as envoyé récemment.
Ouais, ouais.
Les autres personnages, on dit, bon, Peter se rebelle contre l'autorité, d'accord, mais bon, on va le dire, là, c'est un film qui a 24 ans, il commet un crime, là, c'est grave d'ailleurs, vers la fin du film. Évidemment, les patrons, c'est c'est des gens un petit peu beaucoup détestables qui gèrent ça, leur équipe tout croche. Les amis de Peter vont commettre après le même crime aussi parce qu'ils sont complices. Il reste qui? Il reste le Milton met le feu à la bâtisse. Jennifer Aniston, la seule chose de mauvaise qu'elle fait, c'est de se rebeller contre son boss parce que son travail est en train de la tuer intérieurement puis elle démissionne. Mais qu'est-ce que tu
penses? Non, c'est ça. C'est une comédie, là. Je pense que c'est pas supposé être un modèle à suivre, là. Mais c'est ça. Tout le monde est un peu tout croche, là.
Voilà.
Il y a personne vraiment qui a un code moral très fort, là.
Non, effectivement. Bon, ça reste. Et des moments qui restent drôles, mais c'est drôle surtout parce que c'est ridicule, je pense. C'est pas drôle. Haha, tu sais, bon, c'est un bon gag. Je pense surtout, c'est. Je parlais du personnage qui se fait frapper, que sa grande idée pour devenir riche, puis ça témoigne. Je pense que c'est un peu l'espèce de symbole de l'époque. Sa grande idée pour devenir riche, c'est s'inspirer du type qui a fait les roches sur lesquelles il y a du gazon qui poussait. Là, je pense que c'est dans les années, début des années 90. Et il dit sa grande idée, c'est un tapis. En anglais, un jump to conclusions mat, c'est-à-dire, t'as un tapis sur lequel t'as des conclusions de réflexion, puis tu vas sauter aux conclusions. Puis quelqu'un le dit d'ailleurs en début de film, mais quelle idée de chenoute, c'est comme la pire idée que j'ai jamais entendue. Mais il fait pareil, on sait pas si ça marche, mais tu sais, tu dis, bon, faut suivre ses rêves, Kevin, même si c'est pas des bons rêves.
Ouais, ben c'est ça. Je suis pas sûr qu'il va devenir millionnaire avec cette idée-là.
Non, effectivement. Mais écoute, voilà, c'est Office Space, ça occupe une espèce d'espace temporel spécifique. J'avais entendu dire, j'ai vu une vidéo là-dessus, en fait, que pour la campagne de promotion, Et c'est vraiment un témoin de l'époque, là. La campagne de promotion de ce film-là, il avait installé un cubicule à Times Square, dans les airs, et il y avait quelqu'un qui était là, dans le cubicule, et plusieurs heures par jour, il y avait une tu pouvais suivre le gars dans son cubicule avec une webcam, donc vraiment les débuts de l'Internet en direct. Webcam prenait peut-être une photo aux 20 secondes, genre c'est webcam en guillemets, là, c'est pas de la vidéo en direct comme telle. C'est pas sur Twitch, évidemment, ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment comme les débuts de ce genre de choses-là. Et ça se ferait pas aujourd'hui comme promo, ce genre d'affaires-là. Tu t'installerais pas quelqu'un dans un bureau, dans les airs à Times Square pour faire la promotion de ton film. Mais bon, c'est ça qu'ils ont fait à l'époque. Juste pour ça, je trouve ça quand même intéressant là, comme objet culturel. Mais bon, est-ce que c'est le film que je suggérerais effectivement à tout le monde? Je suis pas sûr. Le plus drôle là-dedans, c'est que moi, à l'époque, plusieurs années maintenant, c'était le film que je voulais montrer à mes amis. C'était le film que je voulais, je me rappelle de ma copine, quand on a commencé à se fréquenter, éventuellement, on a fait une soirée cinéma, puis j'ai fait écouter Office Space. Pourquoi? Je sais pas, est-ce que c'était ça ou Blade Runner et Office Space, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Blade Runner, d'accord, là, mais Office Space, d'accord, c'est un peu... c'est particulier.
Ouais, c'est ça. C'est pas le film le plus excitant qu'il y a au monde, là.
Non, mais bon, c'est toujours mieux que... c'est toujours mieux que mon ami qui avait choisi d'écouter Requiem for a Dream alors qu'il était venu passer une soirée à la maison. Je peux te dire que c'était assez déprimant comme soirée.
J'espère que c'était pas avec une date.
Non. Un film super joyeux, on va écouter Requiem for a Dream. Bref, ben Kevin, merci d'avoir... on va quand même pas dire subir Office Space.
Oh non, d'avoir... c'est ça, ça s'écoute quand même bien. Puis comme tu dis, c'est juste 90 minutes.
Voilà.
Puis il y a quelques bons gags. Les gags sur Michael Bolton, je trouve ça encore drôle. Puis c'est ça, c'est... Puis, tu sais, Moi, je l'ai écouté sur Disney+, ça m'a rien coûté, c'était bien relax, là, c'est pas de trop.
Ben, c'est ça, c'est le prochain point que je voulais aborder, donc c'est largement disponible là, sur Internet, là.
Oui, c'est ça, si vous êtes abonné à Disney+, il est sur le service gratuitement avec l'abonnement, là.
Bon. Puis c'est un film aussi qui, en raison de son âge, peut même se trouver en VHS, si ça vous tente de vivre l'expérience Office Space en 4:3 peut-être, sur un écran carré. Voilà, donc c'était Office Space. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de bonus de Rembobinage. Tous les autres épisodes, évidemment, du podcast sont disponibles sur pieuvre.ca. On est aussi sur Spotify et Apple Podcast. En attendant, notre prochain rendez-vous, donc prochain film dont on va parler. Je sais que dans la série régulière de Rembobinage, c'est très bientôt le début du Festival du Nouveau Cinéma. Au moment, je pense, où vous allez écouter cet épisode-là, le festival va être sur le point de commencer. Je pense que ça commence le 4 octobre. Donc voilà, on va aller voir des films pour vous. On va donc vous en parler dans un épisode spécial au cours des prochaines semaines. En attendant, donc, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, abonnez-vous à l'infolettre de Pieuvre. Vous recevez l'ensemble des contenus publiés durant la semaine. C'est gratuit. Vous allez sur le site, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes. Et donc, ça évite la censure des algorithmes. Donc ça, je vous dis merci et à bientôt.